Couture.
Les gens qui ne veulent pas rien savoir de ça, là, ben allez-vous.
Dans le mid.
Avec Pierre Couture et Nick Cloutier.
Radio X.
Ouais, ben c'est pas les sujets politiques qui ont manqué 2025. Là, il y a eu toutes sortes de rebondissements. On a eu des élections au fédéral. On a eu les courses à chefferie. Justin Trudeau qui a quitté, Mark Carney qui est arrivé.
Ça a été toute une année.
T'as eu Trump avec ses tarifs, t'as eu sa clique, t'as eu la course au Parti libéral du Québec. Il y a eu toutes sortes d'affaires. La CAQ.
Les Brownies, la CAQ.
La CAQ avec Dubé qui décolle. Après ça, t'as eu Fitzgibbon. Je pense que Fitzgibbon, c'est l'année d'avant.
Ouais.
Mais il y a eu toujours...
L'élection aussi partielle d'Arthabasca.
Ah non, écoute, ça a brassé.
Il y a eu des affaires.
Notre chroniqueur, il est là, lui.
Chronique politique avec Rodolphe Osney.
Rodolphe, quelle année 2025?
Oui, salut Pierre, salut Nick, salut Québec. Oh. Oui, c'est difficile de faire toute la liste.
Ben, il y a du stock pas à peu près. Mais quand même, là, comment tu... qu'est-ce que tu ressors de tout ça? Qu'est-ce que tu regardes là aujourd'hui? Le radar est où, là?
Bon, ben écoute, pour l'instant, à très, très court terme, on va regarder qu'est-ce qui se passe au Parti libéral du Québec parce que on attend toujours deux choses, à savoir le calendrier de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, surtout les conditions pour se présenter d'être candidat. C'est un tout petit peu compliqué parce que faut savoir que pour être candidat, ben des fois, il faut donner un certain montant d'argent, il faut aussi recueillir un certain nombre de signatures. D'un côté, tu veux mettre la barre quand même assez haut parce que tu veux pas que n'importe qui se présente à la chefferie. Mmh. Mais d'un autre côté, tu peux pas mettre la barre trop haute non plus parce qu'ils ont déjà eu une course à la chefferie. Il y en a déjà qui ont fait des donations, etc., etc. Donc, c'est un peu le dilemme que le Parti libéral du Québec, pour l'instant, on connaît toujours pas ça va être quoi les conditions. Normalement, je pense qu'ils se sont rencontrés hier. Ils doivent nous dévoiler. Donc, on va voir est-ce qu'on aura une véritable course ou un couronnement. C'est la grande question qu'on va se poser cette semaine ou très tôt en 2026, à savoir qu'est-ce qui va se passer au Parti libéral du Québec. Est-ce qu'ils auront un nouveau chef avant la Saint-Valentin, après la Saint-Valentin? C'est la grande question.
Oui, puis là, tu as Charles Milliard qui a quand même fini deuxième et qui, je pense, puis là, tu as le troisième, Carl Blackburn, qui a décidé, lui, de pas y aller. Fait que là, à un moment donné, je sais pas si on veut perdre du temps là, avec Bélanger puis Milliard. On sait que c'est Milliard qui va gagner, là, tu sais.
Oui, mais il faut qu'ils fassent attention. Les deux autres candidats, je pense, Bélanger et Roy, s'ils ont des dettes de l'ancienne campagne, ils peuvent pas normalement se porter candidat. C'est-à-dire, il faut faire attention pour se porter candidat. Il faut que tu aies déjà réglé tes dettes de l'ancienne campagne. Et je pense pas que c'est le cas pour les deux. Donc, peut-être aussi, ça les disqualifie d'office. S'ils n'ont pas payé leur dette de l'ancienne campagne.
Voilà. Alors, aussi, remaniement au sein du Parti libéral, l'équipe là, parlementaire, c'est Marc Tanguay qui va prendre le contrôle de l'équipe, mais on comprend, Monsef Deragy qui revient, lui.
Oui, he's back dans son ancien rôle de leader en chambre pour le Parti libéral du Québec. On se souvient qu'un des premiers gestes de Pablo Rodriguez, quand il a gagné, puis ça avait fait beaucoup sourciller, puis on s'en est parlé dans le passé, Pierre, il avait tassé Monsef Deragy, celui qui avait quand même donné des lettres de noblesse au Parti libéral du Québec concernant le dossier de sa clique. C'est lui le premier qui a levé les drapeaux rouges. C'est lui qui a dit « Hey, il se passe des affaires, il y a des procès-verbaux qui sont caviardés ». Puis on avait mal compris le premier geste de Pablo Rodriguez de l'avoir écarté. Surtout que en fin d'année, il y a toujours des prix qui sont donnés aux parlementaires et c'est Monsef Deragy qui en avait gagné 4. Donc, Marc Tanguay revient chef intérimaire et remet Monsef Deragy dans ses anciennes fonctions, en tout cas jusqu'à la fin de la course à la chefferie. On verra ensuite le prochain chef, qu'est-ce qu'il fera. Mais Monsef est de retour. On verra parce que la Chambre, le Parlement ne reprend pas avant la fin janvier, donc on verra s'il y aura la course ou pas, ou ce sera déjà décidé à ce moment-là.
Ouais, et Mme Setlakoui qui est tassée.
C'est ça, exactement.
Donc, c'était ça. Elle était plus avec Pablo. Et là, comme Pablo n'est plus là, ben on fait l'équipe. Mais sérieux, écoute, là, on va avoir de quoi. Et ça peut faire en sorte, là, avec Charles, mettons, Charles Milliard s'amène. Moi, je pense que c'est Charles Milliard, là. Mais il s'amène, puis là, on commence à mordre davantage. Puis là, on tasse un peu tous les scandales autour du Parti libéral du Québec. Mais là, on va peut-être voir les chiffres, en tout cas, l'aiguille bouger pour le Parti libéral. On va peut-être voir le Parti libéral remonter tranquillement. La CAQ qui remonte, le PCQ, le PQ qui descend. Ça va être très intéressant, cette course-là, d'ici les élections. Fédéral, Mike Carney, là, l'homme de l'année, là, j'ai vu, il y a des médias qui le nomment homme de l'année ou homme politique de l'année. Est-ce que c'est notre homme de l'année?
Ben, moi, je pense que oui, quand même, parce que à part, on va dire, certains connaisseurs de la vie politique, il y a un an exactement, il n'y a pas beaucoup de gens qui savaient qui était Mark Carney, à part s'ils avaient suivi son bilan de gouverneur de la Banque du Canada. Et comme ça, tout d'un coup, il a réussi, je dois dire, un exploit. Il est passé de, je veux pas dire de zéro en termes que c'est un zéro, mais il est passé de zéro
inconnu,
à premier ministre non élu, à gagner une campagne électorale qu'on pensait perdue d'avance, d'avoir réussi à renverser la tendance de ce qu'on appelle l'usure du pouvoir, de gagner quand même un gouvernement minoritaire et comme ça d'être premier ministre en fin d'année. Donc, il faut quand même lui donner... C'est quand même tout un exploit. Il n'y a pas beaucoup de gens comme ça qui réussissent à devenir premier ministre à leur première tentative, surtout quand il n'y avait pas fait de politique, quand il n'était pas élu, quand il n'a jamais été ministre, par exemple, dans le passé, de passer de simple citoyen à premier ministre. Il faut s'en souvenir, il y a un an, il n'était pas encore. On discutait le plan de Justin Trudeau, c'était de le nommer peut-être possiblement ministre et de tasser Mme Freeland. On a vu que le plan n'a pas fonctionné et qu'il a réussi à gagner comme ça puis à être premier ministre. C'est quand même, je pense, un exploit, un premier ministre qui, quand tu y penses, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Là, ça veut dire il doit être fatigué, notre pauvre M. Carney, parce qu'il y a quand même eu toute une année, une course à la chefferie, c'est pas facile. Devenir comme ça premier ministre d'un coup, connaître la joute parlementaire, il a jamais siégé. Ça, il faut le savoir, connaître les mécanismes de la gestion d'être premier ministre, etc., etc. On l'a vu. Et bien évidemment, tous les dossiers, que ce soit les États-Unis, que ce soit beaucoup, il a quand même fait beaucoup de voyages à l'international. Je pense qu'il a fait quelque chose comme 10 ou 12 ou 13 voyages à l'international, notre ami M. Carney. Donc, on peut dire que c'est une grosse, grosse année et il peut avoir un repos bien mérité.
Oui, il a recentré le parti libéral plus vers la droite. Là. On appelle ça les Red Tories, un peu comme Doug Ford. Une espèce de libéral, mais conservateur. Là, il a commencé à voler le lunch de Pierre Poilievre aussi. Là.
Oui, c'est vrai qu'il a opéré toute une cassure avec l'ère de Justin Trudeau. Il a vraiment opéré un recentrage même de centre-droit, qu'on pourrait dire. On l'a vu, par exemple, sur la taxe sur le carbone qu'il a maintenue. On l'a vu avec cette future peut-être entente avec l'Alberta de parler de pipeline. Donc oui, c'est vrai que sur certains éléments, l'immigration, on n'oublie pas, la justice aussi, il y a quand même des dossiers qui étaient très attachés. Il veut même aussi ne plus parler de politique féministe comme était, par exemple, la position de Justin Trudeau. Donc tu vois quand même qu'il a fait énormément de recentrage et qu'il a fait un véritable contraste avec Justin Trudeau. Moi, ce qui m'étonne un peu, c'est pas lui, c'est surtout ses ministres. Ça veut dire, quand je regarde Mélanie Joly puis François-Philippe Champagne, puis je l'ai écrit il n'y a pas longtemps dans Le Devoir, c'est quand même extraordinaire que tu entends ces mêmes deux gros ministres qui disent le contraire de ce qu'ils ont dit pendant 10 ans et que ça passe comme dans du beurre.
Ouais. Et il a tassé Stephen Guilbeault aussi. En tout cas, Guilbeault s'est tassé, là, mais c'est les politiques de Carney qui ont poussé Guilbeault en dehors du Parti libéral.
Oui, il y a quand même des négatifs pour M. Carney, puis il faut quand même le souligner. Le numéro un, c'était ça le but de cette fameuse campagne électorale, son objectif de dire « moi, je suis un meilleur négociateur, pas de crise, pas de Carney, on est en fin d'année, on n'a pas d'entente avec les États-Unis, tous les échéanciers, combien de fois on a entendu, il va y avoir une entente au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre. » Écoute, tous les mois, il y avait presque un échéancier. C'est quand même, je pense, la grosse, grosse, grosse faiblesse. Puis même, du point de vue législatif, à part la fameuse loi qu'il a fait, la loi C-5, concernant les grands projets, il y a quand même un bilan législatif très, très léger. On dirait qu'il n'y a pas encore maîtrisé tous les leviers du parlementarisme canadien parce qu'on a vu qu'il n'y a quand même pas fait beaucoup, beaucoup de lois ou la session parlementaire. Il y a pas, à part cette fameuse loi C-5, il n'y a pas un gros, gros bilan législatif. Et oui, le gros, gros négatif, c'est la relation Canada-États-Unis. Peut-être qu'il y a eu des bonnes rencontres puis il se tape dans le dos avec M. Trump, mais on n'a pas vu des résultats concrets.
Mais le banquier est obligé de réparer pot cassé de Justin Trudeau. Là. Il est allé partout, allé aux Émirats arabes unis. Il est allé chercher des gros contrats là-bas aussi. Là, il ramène de l'argent au pays. Là. C'est ça qu'il fait, là, essentiellement. Là.
Il y a deux dossiers que je vais regarder en 2026, puis on a vu quand même que M. Carney a changé d'approche. Un, c'est l'Inde. On se souvient que, par exemple, la relation Canada-Inde n'était pas bonne. M. Carney a invité au Canada, puis il faut s'en souvenir, lors du G7, le premier ministre de l'Inde, et qu'il y a un certain rapprochement avec l'Inde. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer en 2026. Même chose sur le dossier de la Chine. Ouais. Ça veut dire que les relations Canada-Chine étaient très froides. Il y a eu une rencontre, il faut savoir, une rencontre entre le premier ministre et le président chinois. Moi, je m'attends à ce que M. Carney fasse une visite en Chine en 2026. Donc, on va voir aussi sur ces deux gros dossiers, l'Inde et la Chine, comment la relation Canada va évoluer.
Ah, c'est ça. Puis toute l'histoire du pétrole aussi, de ramener des capitaux. J'ai comme entendu là, des gens de la Banque nationale dire que le travail est quand même bien entamé là, de M. Carney, de ramener de l'argent au pays. Des investisseurs qui avaient comme délaissé le Canada sur l'échelle internationale, et là, ils reviennent tranquillement. Ils sentent qu'il y a une volonté politique de générer des revenus. Là. Donc ça, c'est très intéressant à l'échelle internationale. Le Canada is back, là, on va dire ça comme ça.
Oui, écoute, on va voir. C'est sûr qu'il faut lui donner. Il y a un effort, un, de diversifier nos marchés et de deux, de faire de l'attraction d'investissements étrangers. N'oublions pas, il y a quand même un gros dossier qu'on ne sait toujours pas qu'est-ce qui va arriver, le dossier militaire, surtout des F-35, puis les futurs achats. Est-ce qu'on va plus aller vers l'Europe? Est-ce qu'on va aller plus vers les États-Unis? Ça reste quand même un gros dossier où on termine l'année un peu comme en 2013, en 2015, en 2017. Est-ce qu'on va les acheter ou pas, ces fameux F-35?
Ouais.
Pour l'instant, on ne sait pas si on va en acheter, combien on va en acheter.
Ben, moi, je pense que ça fait partie de la négo avec les Américains. Là, oui. À un moment donné, si on a une entente de libre-échange qui est gagnant-gagnant, écoute, on va apprendre que les F-35, on a un deal avec Boeing et ça va de l'avant. Là, on a vu traverser des conservateurs, des conservateurs vers les libéraux. Ça, c'est pas fini, là. On pourrait peut-être avoir d'autres surprises en 2026.
Oui, il faut savoir qu'il ne manque qu'un député qui irait dans le camp libéral pour que, comme on va dire, le jeu soit terminé, que M. Carney ait de facto un gouvernement majoritaire, puis que ça veut dire qu'il peut, grosso modo, faire ce qu'il veut, que ce soit pour passer des lois ou pour gouverner. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Ce serait quand même, et ça ferait très mal à M. Poilievre pour son leadership, s'il perdait encore un député conservateur. Pour l'instant, il en a perdu deux. S'il en perd encore un, c'est un peu game over du point de vue législatif pour les conservateurs. Ils n'arriveraient plus comme ça à imposer leur volonté ou le Bloc québécois. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer en 2026 s'il y aura un transfuge de plus.
Ben, j'ai dit Boeing pour les F-35, c'est Lockheed Martin.
Oui, Lockheed Martin. Ouais,
voilà, voilà. Et là, là, on a aussi Pierre Poilievre. Hein? Lui aussi, là, il y a un vote de confiance à la fin janvier à Calgary. Lui, il doit passer au travers ce processus-là. Ça pourrait passer, ça pourrait casser.
Ben, je pense que ça va passer. La question, c'est à quel niveau? C'est toujours ça le problème, Pierre. Est-ce que ça passe à 60 %, à 70 %, à 80 %? C'est plutôt le chiffre qui va être intéressant de voir. Puis encore une fois, s'il y avait un autre candidat député, je veux dire conservateur, qui passerait de l'autre côté, ça pourrait mettre en branle tout son leadership et ce fameux vote de confiance. Donc, on va voir au mois de janvier, fin janvier, Calgary, vote de confiance pour Pierre Poilievre. Est-ce que ça va solidifier ou diminuer et affaiblir son leadership? On va voir en 2026 comment les choses vont aller.
Ouais, t'as le Bloc québécois aussi qui a sauvé les meubles. Comment on va être capable de sortir aussi de la dynamique? Parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont voté pour Mark Carney, qui avaient voté pour le Bloc. Là, comment on défait tout ça? Hein? Comment on reste en vie aussi au Québec? Il y a une dynamique pour le Bloc aussi, là.
Oui, il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire qu'on parlait que Pierre Poilievre, c'était une victoire facile d'être premier ministre. On parlait aussi que Yves-François Blanchet, pendant un moment, on le voyait comme chef de l'opposition officielle. Il ne faut pas oublier ça. Le résultat, c'est qu'il a perdu des sièges au Québec, qu'il y a des souverainistes, des bloquistes, des indépendantistes, appelés comme tu veux, qui n'ont pas voté pour le Bloc, qui ont voté pour les libéraux, que la forte délégation de députés pour M. Carney vient aussi du Québec avec une partie de vote souverainiste. Moi, ce que je vais regarder, surtout en 2026, c'est qu'on sait qu'il va y avoir une élection au Québec. On sait qu'en octobre, il va y avoir l'élection. Le rôle du Bloc, on sait que l'entente entre Yves-François Blanchet et Paul Saint-Pierre Plamondon, hein, on ne sait pas s'ils prennent une bière ensemble, les deux.
Non, hein.
Donc, on va voir parce que, nous ne l'oublions pas, il n'y a eu aucun effort de Paul Saint-Pierre Plamondon durant la campagne fédérale pour aider le Bloc. On va voir qu'est-ce que il y a même eu des batailles de candidats. Souvenons-nous que le Parti québécois n'était pas content que certains candidats étaient allés au Bloc et auraient préféré les garder pour le PQ. Donc, on va voir en 2026 la relation bloc-PQ, puis cette fameuse campagne, comment ça va aller, parce qu'il y a quand même eu des tensions en 2025 entre Paul Saint-Pierre Plamondon et Yves-François Blanchet.
Oui, puis là, tu as le NPD qui est complètement à terre. Eux autres, ils ont couru après le trouble, ils l'ont trouvé, puis je pense qu'ils le méritent.
Oui, et puis ça, c'est surtout pas une bonne nouvelle. Il faut toujours le retenir. C'est pas une bonne nouvelle pour les conservateurs. C'est une bonne nouvelle pour les libéraux d'avoir comme ça réussi à siphonner le vote du NPD. On va voir si le NPD 1 va se doter d'un bon chef en 2026. Puis on vient de parler de cette entente sur les pipelines. En Colombie-Britannique, normalement, le NPD devrait redorer son blason, réussir à regagner des votes, surtout contre M. Carney et peut-être même le départ de Stephen Guilbeault ou cette conscience environnementale. Donc, on va voir comment le NPD va réussir peut-être à remonter en 2026 ou pas. C'est quand même quelque chose à regarder pour la dynamique parce qu'un gouvernement majoritaire ou minoritaire, ça dépend surtout beaucoup des fois du NPD pour les libéraux ou même pour les conservateurs de diviser le vote des libéraux.
Ouais. En terminant, Rodolphe, année électorale 2026 au Québec, là, tu as la CAQ, on ne sait pas trop sur quel pied il danse. Est-ce que Legault va rester? Il dit qu'il veut rester. Beaucoup de grogne. On a vu Dubé, même le ministre de la Santé, M. Dubé, partir, claquer la porte. Beaucoup d'indépendants. Est-ce qu'on va avoir un retour au bercail des indépendants à la CAQ? Est-ce qu'on aura un changement de chef? Ça aussi, là, c'est des grandes questions qu'on devra répondre rapidement en 2026.
Oui, moi, je crois que ce qu'il faut retenir au Québec en 2025, la grosse donnée, c'est 9 indépendants. Il y a quand même 9 indépendants. Est-ce qu'on en aura plus? Est-ce qu'il y aura des députés actuels qui vont annoncer très rapidement dans la nouvelle année qu'ils ne se représentent pas, qui veulent passer plus de temps avec leur famille, à la fois pour la CAQ, ça va être intéressant de voir ça, puis les fameux candidats du Parti québécois, on se souvient qui va vouloir se présenter pour le Parti québécois, ça va être intéressant de voir l'équipe qu'ils vont mettre devant, et le futur chef du Parti libéral du Québec, lui aussi, c'est un gros défi, réussir à recruter des candidats de qualité en 2026.
Donc, les aiguilles vont continuer de bouger. Là. Le PQ descend, puis ils sont allés très haut, 39, sont rendus à 35. T'as la CAQ qui commence à remonter tranquillement, mais on va le voir si Legault et ça colle, son message passe. T'as le PCQ de Duhaime qui monte, puis t'as les libéraux qui pourraient aussi, avec un nouveau chef, remonter. Là. Donc, ça pourrait amener beaucoup, beaucoup de changements au niveau des intentions de vote en 2026.
Rien n'est joué, rien n'est joué. C'est pour ça que c'est intéressant, ça va être une année intéressante en 2026. Surtout qu'un gouvernement ne peut pas gouverner très, très longtemps en année électorale. On va commencer tout de suite, rapidement. Là, moi, pour moi, il reste quoi, 2-3 mois à gouverner avant qu'on rentre vraiment en campagne électorale de façon pratico-pratique.
Oui, parce qu'au niveau des spins, là, quand on travaille à l'interne, il y a un calendrier. Et oui. Les mois avant le déclenchement de la campagne, il y a des annonces à répétition, là. Des annonces avec des montants d'argent, des gros montants. On va essayer de capitaliser là-dessus là, pour la CAQ notamment.
Tout à fait. C'est pour ça que ça va être difficile à la fois de gouverner, de rester sur l'agenda puis de voir comment les oppositions vont réussir à marquer des points, à dire que c'est qu'ils essayent d'acheter des votes avec notre propre argent. Attends-toi à beaucoup de ces attaques-là, à la fois du PQ et des libéraux, en disant « ouais, c'est ça, c'est des annonces électoralistes ».
Voilà, Rodolphe Osny, c'est toujours un plaisir. 2025 est une grosse année avec Radio X et on va souhaiter une grosse 2026. Merci beaucoup, joyeuses fêtes et comme on dit, on se repose pour l'an prochain.
Joyeux Noël, merci Pierre, merci Nick, merci Québec.
Salut.
Salut.
Bye-bye.
Bye.
Voilà, Rodolphe Osny, toujours sa coche.
Beaucoup de choses.
Il a fait le tour. Là. On a fait un grand tour.
C'est une année complètement folle en politique.
Complètement.
2025. Ouais. Ouais.
Mais c'est un beau cadeau de Rodolphe de nous faire ça.
Absolument.
T'es pas obligé, là.
Non, il a fait ça de bon cœur et avec passion.
On y a tordu un petit
voilà.
Bras. Hein,
wow.
Un petit verre de...
Pas tant.
De mousseux.
Oui, toujours de mise. Seulement s'il le faut, Pierre.
Voilà. Hey, après la pause... On va ouvrir les lignes. Puis là, tu sais, là, tu me disais, ouais, t'en vas où? Ouais. Tu sais, des fois, la musique, hein? Moi, j'aime bien la musique.
Ouais.
Là, j'avais le top 20 des artistes les plus écoutés en 2025 au Québec. Qui est l'artiste le plus écouté au Québec selon Spotify?
OK.
Ça avait sorti il y a quelques semaines. Ça n'a pas bougé bien, mais Drake?
Ouais, ça m'étonne.
Drake. Et qui est le deuxième? Moi, je l'adore. Je l'ai découvert cette année. Morgan Wallen.
OK.
Ça, c'est du country.
Morgan Wallen, ouais.
Moi, c'est j'aime country. Bien, j'aime bien.
Folk. C'est... Folk country, on dit country, mais... Tu sais, c'est pas... Il n'y a pas la sonorité country habituelle.
Ouais. Et après ça, c'est Taylor Swift, Weeknd,
ouais.
Bad Bunny. Zach Bryan, qui est excellent, qui était venu au Festival d'été il y a quelques années. Billie Eilish, Kendrick Lamar, Luke Combs. Il n'y a pas de Québécois encore, là. Après ça, tu as Tate McGraw, Lady Gaga et 12e rang, les Cowboys fringants.
Ça va loin. Après mais ça, c'est la faute des plateformes, Pierre, hein,
ah oui?
Tu savais?
Ben c'est oui. Ça. Ben oui, c'est ça.
C'est parce qu'on met pas de l'avant les produits québécois, là.
Mais Morgan Wallen, il était des très bonnes tunes. En tout cas, regarde, moi, je veux savoir, on va ouvrir les lignes.
On parlera de musique.
Qui est votre artiste préféré de l'année 2021?
Ouais, c'est bon, parfait. Moi, 88.
Ma trouvaille, c'est Morgan Wallen.
Ouais, moi, je te parlerai de la mienne.
Prends c'est
la
bon,
pause.
C'est ouais, bon.
Ouais. 88-670-9098.
On vient.
Coup sûr. Dans le mid.
Petite pause. On revient dans pas long.
Hey boy. Radio X.